Merci d'écouter France Inter. Il est 17h passé de 5 minutes et c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, qui vous emmène jusqu'à 18h.
La passe, la passe
et la quiz.
Llega la voz del trabuco con su conjunto cantar. Tres clases muy definidas formaron. Aborigen, la negra y la blanca reclaman unión desde el tiempo colonial.
Este mi rima es latina, este es mi nuevo cantar.
Somos hermanos soberanos de la libertad.
Este mi rima es latina, este es mi nuevo cantar.
Latinoamérica unida buscando su igualdad.
Este mi rima es latina, este es mi nuevo cantar.
Guajiros, jíbaros, latinoamericano.
Este es mi madre latina, este es mi nuevo cantar.
Con música afrocaribe que bien el trabuco se exhibe.
Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas. Bolívar el humanista, Bolívar el que dijo que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que debe darle a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible. Bolívar el revolucionario, Bolívar el Quijote, Bolívar el que alertó acerca de la amenaza norteamericana. Apenas era 1826 y ya Bolívar andaba diciendo: cuidado, cuidado que un nuevo imperio pudiera venirse sobre nosotros. Aquella frase profética, lamentablemente. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Simón Bolívar, 1828.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías.
Bienvenidas, hermanas. Bienvenidos, hermanos.
Un peu de soleil tropical en prélude à notre départ pour le Venezuela lundi prochain, le 3 janvier 2005, dans la partie qui suit, ou à Venezuela. Mais en attendant, eh ben, c'est Champs-Élysées, Grande Roue, Musée Grévin, Joconde et Bateau-Mouche. Et oui, je fais guide touristique à Paris avec des amis venus du Rwanda qui découvrent ébahis notre patrimoine, nos monuments historiques et la grandeur de la France. Alors, dans le même esprit, je vous propose de découvrir un trésor du patrimoine et de la grandeur de la France. De là-bas, si j'y suis, je veux parler, bien sûr, du proctologue. Le proctologue, l'une des émissions les plus demandées de la base, si j'y suis, au point que c'en est décourageant. On essaye de vous faire quelque chose de bien, on se décarcasse, Mais vous dites, oui, c'est bien, mais ça vaut pas le proctologue. Ou bien, quand est-ce que vous allez diffuser à nouveau le proctologue? Eh ben voilà, c'est aujourd'hui. C'est tout de suite dans la partie j'y suis, l'inénarrable Anne Rioux dans le proctologue.
Mais dites-moi, docteur, ça se conserve une carotte? Non.
Ça dépend où vous la mettez. Dans le bas du frigo, vous la conservez 8 jours au moins. Dans le bas du rectum, 24 heures, c'est maximum. On peut tout voir dans un rectum, y compris des bouées gonflables, comme un de mes collègues marseillais a vécu une fois, paraît-il.
Gonflé ?
Le patient se gonflait lui-même selon ses besoins. L'imaginaire érotique n'a pas de borne.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Anne Rioux, le docteur X et son armoire infernale, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez des carottes, monsieur?
Non, j'ai plus, madame.
Ah, on va voir à côté, alors, merci.
Bonjour, madame. Ce sont des carottes nouvelles. On attaque la nouvelle saison des carottes, là.
C'est pour ça qu'elles sont bien joufflues, bien charnues. Voilà. Alors, docteur.
Est-ce que vous êtes amené à vendre des concombres ou des navets à l'unité? Ça vous arrive? Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent vous acheter du matériel comme ça?
Oui.
Quel type de légumes?
Aussi bien des légumes que des fruits, hein.
Et quand un homme vous demande une banane seule, ça vous inquiète pas?
Si, mais...
Ah,
si. Non, mais de toute façon, ils ont toujours un petit mot pour rire.
Et ça vous fait rire?
Oui, oui.
À quoi vous pensez?
Non, mais c'est pas facile de le dire.
Vous avez des concombres?
Oui.
Et la courgette?
La courgette...
Est très portée actuellement ou pas?
Elle n'est pas à la mode. La courgette n'est pas à la mode. Non, ce qui est à la mode actuellement au point de vue légumineux, ça a été le concombre, la carotte, le navet long. Très bien, très chic. La banane. Non, il nous est arrivé de retirer un jour un concombre comme ça. Là, vous voyez, il fait à peu près 15 cm. Et sans problème. Concombre, carotte aussi. Vous vendez des carottes à l'unité? Aussi. J'ai vu un jour un malade avec une carotte aussi. Mais il n'y a pas les fans. Les fans ne sortaient pas.
J'ai honte. Bon, on continue. C'est médical hein, comme sujet.
Ça suit médical. Un peu curieux, mais médical.
Alors, on vient de faire un sondage en temps réel parmi les auditeurs de cette petite séquence. Oui, on a des moyens maintenant de plus en plus rapides pour savoir quelles sont vos réactions. Et sur nos écrans s'affichent ces réactions selon trois attitudes. Ceux qui pensent que nous sommes vraiment en train d'entreprendre une émission sur les fruits et légumes et qui ont préparé leur fiche cuisine, c'est la première catégorie. Ceux qui rigolent, qui se poilent plus ou moins finement dans une ambiance qui oscille entre la chambrée de régiment et la salle de garde, et puis ceux qui sont choqués et qui préparent déjà l'entête de la lettre. Monsieur le Président de Radio France, Monsieur le Président du CSA, etc. Alors cela, je leur dis tout de suite, revenez demain, il y a 1200 chaînes de radio en France, et Radio France vous offre une palette très riche de toutes sortes de radio que vous connaissez très bien. Alors, quand même, ce qui domine dans ce sondage immédiat, c'est plutôt le rire et le sourire sur le mode un peu gamin. Et qui rappelle cette histoire qu'on racontait quand moi j'étais gamin, l'histoire de deux bonnes sœurs qui vont acheter chez le marchand de légumes une banane, et le marchand de légumes leur dit: on ne les vend que par deux, et l'une des bonnes sœurs dit: tant pis, l'autre, on la mangera. Et ça nous faisait rigoler. Un rire de la catégorie, on va dire, Rabelais, Quant au choix d'un torche-cul, c'était le même âge, c'était le même moment, et c'était le même éclatement. On continue notre, avec enterrement, il faut bien dire, notre suite de reportages avec Anne Rioux sur ce qu'on appelle les sexplorateurs. Sur un continent tout à fait méconnu, tout à fait mal connu, qui est nous-mêmes. Nous voilà avec ce docteur qui va s'appeler le docteur X, dans cette ville française de province qu'on va appeler la ville X, et oui, au sujet de ce que nos contemporains aiment ou n'aiment pas, mais aimeraient peut-être ne pas s'enfoncer dans le boyau culier, comme disait le bon Rabelais. Plaisir parasodomique, nous dit le docteur très savamment. Vous avez déjà pensé au mot fantasme, vous avez déjà pensé au mot perversion en écoutant ce que je suis en train de dire. Alors peut-être perversion, mais alors au sens de pervétéré du latin, c'est-à-dire au sens de bouleverser, de mettre sans dessus dessous. C'est enfoncer une porte ouverte, de rappeler qu'en ce domaine, il n'y a pas de règles, que jamais, depuis que l'homme se tient sur ses pattes de derrière et même peut-être avant, il n'a été possible de maîtriser le désir, d'éradiquer les pulsions morales, civilisation, religion n'y sont pas parvenues. Notre sexualité, nos pulsions corrodent en permanence cette volonté, peut-être cette nécessité judéo-chrétien que nous sommes, d'encadrer ces pulsions. Énigme de la pulsion et de la transgression, aujourd'hui, jusqu'à 18h, dans Là-bas si j'y suis. Il y a ce sourire qui flotte sur nos visages avant de commencer. Il se pourrait bien que nous rencontrions au coin de ces témoignages de la souffrance aussi. Et alors, à cette souffrance, on pourrait évoquer une scène décrite par le bon docteur Freud, Sigmund, qui parlait d'un enfant qui, dans l'obscurité, disait « Quand quelqu'un parle, ça fait de la lumière. »
Alors, perforation par carotte avec interdiction de recommencer.
Et si un type, donc plutôt homme, en général ça arrive, enfin, moi ce que j'ai vécu dans, à titre de chirurgien, c'est chez les hommes qu'on a rencontré ça. Si un type normal apparemment vous prend une poire, une banane ou un objet un petit peu phallique,
bah je sais pas, bon je pense qu'il exagère. Hein. Bah pour histoire là comme une phallique machin tout ça, bon non je pense, bah moi je pense pas ça, moi je sais pas hein, si.
Mais en réflexion, va falloir que les sex shops se mettent à vendre du fruit et légumes, non? Enfin du fruit peut-être, hein? Enfin, du légume plutôt, oui.
La question qui se pose, est-ce que la TVA serait la même
C'est une TVA 18,6 chez eux, non? Non, plus que ça, non?
Vous avez une TVA combien, vous?
Nous, 5,5, nous. Pour ça, elle est pas chère, hein.
Mais dites-moi, docteur, ça se conserve, une carotte, non?
Ça dépend où vous la mettez. Dans le bas du frigo, vous la conservez 8 jours, au moins. Dans le bas du rectum, 24 heures, c'est maximum. Mais la carotte, par son aspect un peu acéré, et puis surtout par peut-être la force avec laquelle elle a été manœuvrée, peut entraîner des dégâts. Donc les gens ou n'arrivent pas à enlever ce qu'ils se sont mis d'une façon agréable mais malencontreuse, car un peu excessive, ou alors on les voit carrément pour des effets pervers, enfin pervers, pour des effets délétères comme on dit, à savoir des perforations. Donc nous on ne voit que la face ou la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée reste confidentielle et dans le secret des alcôves. Mais à ce propos, il faut dire que c'est anecdotique, et que nous, on est partagé entre le secret médical et le secret de l'alcôve.
Alors, on a tous entendu parler de la bouche d'un copain médecin ou comme ça, par rumeur, de ces fameuses armoires qui seraient non loin des services d'urgence de certains hôpitaux où on trouverait des objets très insolites qui auraient été trouvés et extraits du rectum de certains de nos contemporains. C'est une chose qui se raconte toujours, et vous voyez bien, vous allez voir que ça existe tout à fait. Alors, bon, il s'agit du rejet le plus total, du dégoût au-delà du dégoût lui-même, et à cause de ça, il faut peut-être ne pas oublier que des choses qui nous paraissent presque normales aujourd'hui, ou tout à fait normales aujourd'hui, ou tout à fait banales aujourd'hui dans ce domaine, ne l'ont pas toujours été. Et il faut aussi savoir, arrogant franchouillard que nous sommes, que nous ignorons énormément de choses de l'histoire de notre sexualité, propre et de celle de nos voisins.
Attention, les mineurs doivent raccrocher immédiatement.
Là, on a un antiquaire.
Pardon. Bonjour.
Donc, on vient voir différents objets. Voilà, un objet, par exemple, des obus, des douilles, des grands obus. Ça, c'est un objet qu'on peut trouver dans les rectums des malades.
Ne partez pas, madame. Vous étiez au courant?
Dites-nous.
Un petit peu, oui. Ah, mais j'imagine volontiers que ça puisse se faire, hein.
C'est vrai?
Oui, tout à fait.
Vous imaginez? Moi, j'imagine pas, voyez-vous.
Ah non, ça me surprend pas. Moi, j'ai des histoires plus crues que ça, même.
Quel genre?
Style avec des protections féminines qu'on retrouve partout. Des tampax.
Même dans les rectums?
Ah oui.
Mais ça arrive de se tromper.
Pour un homme?
On continue nos courses, docteur? Un billard? Qu'est-ce que vous voulez me montrer?
Eh bien, là, je vais vous montrer des billards. Il y a différents types de billards. Et sur le billard, il y a des boules. Un de mes collègues a été amené un jour à retirer une boule de billard du rectum d'un patient.
Mais c'est tout petit.
Non, c'est pas petit. D'une part, c'est relativement volumineux. Ça fait 7-8 cm de diamètre. Donc, ce qui demande un sphincter complaisant et un rectum qui a déjà, si je puis dire, un long vécu derrière lui. Et le problème n'est pas tant de mettre la boule de billard, ce qui est toujours facile, que surtout de l'enlever. Et ça devient un autre sport.
On va s'éloigner un petit peu, peut-être. Sincèrement, c'est fréquent.
Oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie, mais c'est rare, c'est exceptionnel.
Les gens se demandent ce qu'on est venu faire ici. Hein.
Oui, on le racontera plus tard.
Rayon des surgelés. Et quel est le rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, docteur?
Bon, venez, je vais vous raconter, venez. Des queues de cochon congelées.
On en trouve? Enfin, ça se trouve?
On va demander, je ne sais pas. On va voir si on va demander à la patronne s'il en a.
Bonjour madame.
Bonjour
monsieur. Bonjour. Est-ce que vous vendez de la queue de cochon congelé?
La queue de cochon congelé, non monsieur.
Mais ça se vend madame?
Je ne sais pas si ça se vend, de la queue de bœuf ça se vend, oui effectivement. C'est très mauvais pour les intestins, parce que je vous vois arriver.
À quoi pensez-vous?
Merci.
Et pourquoi ça vous fait rire?
Non, parce que j'ai dit qu'il en faudrait pas mal pour faire un pot-au-feu. Mais je ne sais pas si ça se vend, la queue de cochon, honnêtement. La queue de porc, comme on dit. 1, 2, 3, 4. Voilà. Merci bien. Je ne peux pas vous en dire plus.
Une queue de cochon, c'est en tire-bouchon?
Oui. Il n'y a rien à manger dedans, en plus.
Il n'y a rien à manger dedans. C'est que pour le plaisir.
Exactement. Ah, mais ça, non, mais ça, c'est vrai. Ça, la queue de bœuf, ça, je blague pas. Vous faites un bon bouillon à la queue de bœuf, comme on appelle. C'est vrai que ça fait un très, très bon bouillon.
Ouais. Mais enfin, c'est pas pour un bouillon non plus, hein, qu'on vient.
Ouais, bon, je me doute. Mais enfin, bon, si c'est pour des expériences quelconques, je sais pas, moi.
Hein. Et vous vous doutez de quoi?
Non, je ne doute de rien du tout.
Mais pourquoi vous rigolez, alors?
Non, ben, parce que c'est toujours, c'est dans ma nature. C'est dans ma nature, moi, je suis toujours comme ça.
Bon. Et est-ce que dans votre vie professionnelle, dans le magasin, vous avez été amené à vendre des objets avec a posteriori ou a priori une connotation érotique ou sexuelle.
Non, du tout. Jamais. Du tout, pas chez nous. Ça, je pense que c'est la personne elle-même qui doit, dans sa tête, fantasmer sur tel ou tel produit, hein, ça.
Sur un mico?
Un mico.
Oh, sur un mico, oui, tout à fait. Sur un mico, oui, vous regardez la même, ce stress. Mico, on fait pas mico, nous, c'est uniquement tirier, hein. Voilà. Mais enfin, donc, c'est un bâtonnet quand même, hein. Bon, on n'en saura pas plus, hein.
Si. Bah, dites à madame.
Je dis à madame, parce que dans les rectums de nos contemporains, on est amené à retirer des objets. Dans le cadre des urgences, qui les gens se mettent dans le rectum des queues de cochon congelées. Et plus ou moins en forme de zigounette.
Oui. Ça, je veux bien vous croire. Donc pourquoi pas la queue de cochon? Ben, je leur souhaite du plaisir à ces braves gens. Et à vous aussi. Hein. Sincèrement, dans les deux sens du terme. Hein. C'est de plus en plus cochon. Bonne soirée. Au revoir.
Donner le sentiment de la relativité des valeurs. C'est comme ça que Paul Venn voyait son métier. Et on se demande si c'est pas ce qu'on est en train d'entendre là, ce sentiment que nos valeurs sont bien relatives. L'histoire de la sexualité, le désir, la pulsion remettent en permanence en question ces valeurs, leur fonctionnement, leur agencement. Prenons le goût et le dégoût. Qu'est-ce qui va faire que, en sortant du restaurant, je vais être fou de bonheur d'embrasser les lèvres de cette jeune femme? Mais le lendemain matin, ou le soir même, je vais être absolument dégoûté d'avoir à me servir de sa brosse à dents. Le goût, le dégoût. Pourquoi est-ce que nous rejetons ceci et que nous acceptons cela? Sur quels critères, sur quelles lois, sur quels murs tout ça s'articule? Est-ce que nous le savons au juste? On sait bien que c'est nécessaire, mais pourquoi il n'y a dans ce domaine aucune nature humaine, il n'y a aucune certitude. Et alors, la balade un petit peu rigolote, un petit peu insolite, elle sort tout à fait du cabinet des curiosités.
On ouvre l'armoire?
Oui, on ouvre l'armoire.
Chiche.
Allez.
Tout ça, c'est du pur province française. Mais à Paris, vous avez les mêmes. Voilà. Alors, on va aller de gauche à droite.
Et vous appelez ça comment?
Les corps étrangers du rectum. Les corps étrangers du rectum. Et c'est un terme qu'on rencontre dans la littérature en général. Ce sont des choses inhabituelles qu'on rencontre dans un lieu habituel. Alors, cet aspect des corps étrangers du rectum, ce n'est qu'une partie anecdotique du métier de proctologue. La proctologie, c'est l'étude de l'anus, des maladies de l'anus et du rectum.
Alors donc, il existe une classification de ces objets hétéroclites étrangers, comme vous dites. Ça, c'est une classification personnelle ou c'est une classification qui est parfaitement reconnue par tout le corps médical?
Non, ce n'est pas une classification officielle particulière. On va reprendre la classification que le docteur Lagrange a évoqué dans son livre. Il y a le marchand de quatre saisons avec donc les fruits et les légumes. Donc on va faire l'appel. Donc on a ici une quinzaine de corps étrangers du rectum. Donc on va appeler les fruits. Donc on va appeler la poire. Voilà. Donc on va ranger la poire à sa place.
Prenons la poire.
Nous la prenons.
Il y a un sens?
Oui, en général, c'est dans le sens classique, hein, c'est la queue, si je puis dire, la queue vers le rectum. Et donc, les gens doivent se faire des gâteries, à un moment, la poire fiche le camp, puis ils peuvent pas la sortir.
Et si on attend quelques jours, elle finit pas par mûrir?
Les gens sont impatients, vous savez comment ils sont.
Oh, le navet.
Alors, le navet, un navet long, là, de blanc, de belle facture également. Un produit, je pensais que c'était un cierge au départ. J'ai essayé de le sortir avec une pince, et à chaque fois j'en ai des copeaux, et en fait c'était donc un banal navet. Alors, le patient m'avait dit que ça lui a été introduit par lors d'un guet-apens sur un parking. Donc là, vous avez la carotte. Alors la carotte, donc une carotte très banale. Par contre, elle, qui, bon, elle ne m'a pas surprise non plus, car ça fait partie des choses qui sont bien, bien classiques. Donc c'est un patient qui est arrivé au départ aux urgences pour ce qu'on appelle un syndrome douloureux abdominal.
C'est joliment dit.
C'est joliment dit, c'est-à-dire qu'il avait mal au ventre. Et en fin de compte, il avait perforé son rectum avec une carotte, car c'était un patient qui était un peu célibataire, son épouse était loin de la France. Et je pense que dans les moments de grande solitude, au fond de chez lui, le soir, il devait s'ennuyer, donc il a profité d'une carotte également solitaire pour associer leurs solitudes respectives. Ça s'est fini comme à l'hôpital et il a failli quand même en mourir. Il faut quand même que tous ces corps étrangers ont quand même un aspect anecdotique, mais ils peuvent aussi entraîner la mort des patients. Et il faut dire que très souvent, j'ai l'impression que ces situations ont toujours été créées dans un univers paraconjugal. Donc, il faut pas que ma femme le sache. Donc, ça a été fait ou en solo, ou avec la maîtresse, ou d'une façon extraordinaire.
En fait, oui, ce qui gêne le plus le patient, dans l'aveu, si on peut appeler ça, ou la confidence, c'est pas l'objet lui-même, c'est dans quelle situation ça s'est passé et avec qui.
Que ils soient seuls dans leur chambrette ou qu'ils soient avec leur maîtresse, ce qui est essentiel, c'est que la société ne le sache pas, à travers le voisin, l'épouse, voire les médecins. Donc, mais à partir du moment où ils sont, où il y a le gag, à ce moment-là, il y a bien un moment où il faut reconnaître les choses. Et c'est nous, la grandeur de notre métier, de rester secret. Et on y tient tous beaucoup. Le secret reste le dogme. Et il ne faut pas en déroger.
C'est très courant le concombre quand même, ça reste une base.
Ça reste une base culinaire et proctologique.
Et tout rentre, évidemment.
L'anus a une complaisance assez déconcertante.
La banane?
Alors, la banane est absente. Je n'ai pas encore vécu la banane, mais ça ne saurait tarder, peut-être.
Enfin, d'après les ouvrages médicaux, c'est quand même quelque chose de très courant.
C'est un grand classique. Et dans le classique, on n'est jamais démodé, là comme ailleurs. Il faut dire que tous ces fruits et légumes sont en général entiers. Ils sont rarement débités en tranches ou malaxés en rémoulade ou autre. Hein. Ils sont toujours pris bruts de décoffrage.
Oui, pas en purée, évidemment.
En conseillant les fruits frais et fermes.
J'ai dû faire une bonne occasion ce matin au marché de Saint-Ouen, en achetant pour des picaillons un engin qui porte un nom latin. C'est tout en fer et plein de boulons, c'est gentil et ça fait rond. Ça marche bien, jamais de problème et ça dit... Le bonhomme qui me l'a vendu pour le prix d'un bon kilo de prunes. Ce bonhomme sans l'avoir voulu pour deux thunes m'a décroché la lune. Car c'est pratique, ça fait la vaisselle, les petits plats et les bons cocktails. Ça marche bien, jamais de problème et ça dit Quand on a une femme au panier, vrai de vrai, il faut s'en occuper. Par malheur, quand elle vous casse les pieds, il y a des lois, on ne peut pas la tuer. Mais ce bidule, quand il fanfaronne, je te le dévisse, je le déboulonne. Vous voyez, jamais de problème et ça dit... J'ai fait une bonne occasion ce matin au marché de Saint-Ouen, en achetant pour des picaillons un engin qui porte un nom latin. Venu de loin ou de n'importe où, je ne sais pas d'ailleurs, je m'en fous. Ça marche bien, il n'y a qu'un problème. J'y peux rien, je l'aime.
Donc après les quatre saisons, il y a la quincaillerie. Tous les objets qui sont devant vous ont été retirés du rectum de patients de la région. Donc, on a un verre.
Petit
verre, genre petit verre à Porto, de nos grands-mères, qu'un vigneron s'était mis, semble-t-il, il y a quelques années, avec, m'a-t-on dit, le désir de se suicider. C'était raté.
Par là?
Par le rectum. Par là, oui, par là.
Cassé.
Ah, il a été malheureusement cassé. En fait, c'est moi qui l'ai cassé en le sortant. Donc le deuxième objet, c'est un vaporisateur d'eau de Vittel.
C'est un brumisateur d'eau d'Évian.
Oui.
Pas très grand, somme toute.
Non, c'est le petit modèle. C'est un patient qui avait laissé à l'hôpital un faux nom et une fausse adresse.
Et le bouchon ?
Alors le bouchon a dû être enlevé préalablement à l'introduction par le patient. Il en reste. Il en reste.
Mais c'est fréquent, ça ?
Moi, j'en ai qu'un, mais quand je suis amené à en parler à mes collègues dans les congrès ou comme ça, ça fait partie des choses qu'on connaît. C'est pas une surprise.
On continue l'exploration de l'étagère.
Alors voilà une petite épingle à cheveux.
Rouillée.
Alors ça, c'est celle, elle est d'époque. L'épingle à cheveux que j'ai enlevée. C'est une petite fille qui se faisait des gâteries anales et qui s'était mis l'épingle à cheveux du mauvais côté. Donc, bien sûr, la petite fille qui était absolument adorable avait mal. Donc, on lui a enlevé ça sous l'anesthésie générale très facilement et elle est ressortie le lendemain de l'intervention sans la montrer ni au pédiatre ni au psychiatre. On n'a pas voulu psychiatriser une situation qui nous paraît à nous chirurgiens d'une grande banalité qui ne s'est pas fait un jour plaisir dans ce type de choses.
Dans la quincaillerie toujours, je vois qu'il y a plein de petites choses.
On poursuit là notre vitrine infernale. Alors voici un manche de corde à sauter, tout de jaune et de rose fluo, un peu mâchuré, il est vrai, qui a bien sûr une forme très phallique. Et là, par contre, ça a été mis par un aliéné de l'asile psychiatrique voisin. Ça a été, nous a-t-il dit, un pari avec ses voisins de cellules et de chambrées. Les autres articles sont plus rares, mais il y a le néon qui est très prisé, très dangereux.
Oui, parce qu'un néon, c'est fragile, donc ça peut se casser en mille morceaux. Comment on peut avoir l'idée ? Pourquoi on a eu l'idée d'utiliser un néon ?
L'imaginaire érotique n'a pas de bornes.
Oui, mais en fait, les gens prennent ce qui leur passe sous la main, ou c'est quelque chose de mûrement réfléchi ?
Je n'ai pas été amené à faire des interviews psychologiques des patients que j'ai soignés et opérés. Mais les gens, si le soir ils sont seuls et que la sex shop est fermée, ils prendront dans l'égumier ou dans la corbeille de fruits ce qui leur tombe sous la main et ce qui leur fait le plus envie au moment grand thème.
Ouais, mais enfin un néon, vous trouvez ça attirant, vous ?
Non, c'est classique, le néon reste dans les classiques.
Enfin quand même le tuyau d'arrosage, par exemple.
Là aussi, ça a été évoqué dans des articles. Moi, je ne l'ai pas vécu non plus, mais on peut tout voir dans un rectum, y compris des bouées gonflables, comme un de mes collègues marseillais a vécu une fois, paraît-il.
Gonflé ?
Le patient se gonflait lui-même selon ses besoins.
Joli petit morceau de violon, un petit peu grinçant, court et tout à fait, finalement, allez, disons quelconque. Attendez, d'entendre ce que va nous dire le docteur X. Et peut-être que pendant quelques heures, quelques jours, vous ne verrez pas tout à fait le violon et surtout les cordes à violon de la même façon.
Par contre, il y a une anecdote qui est très amusante des corps étrangers dans la série Jeux et quincaillerie. C'est un patient qui vient aux yeux en consultation, et non plus en urgence. Le patient explique qu'il a des problèmes pour aller à la selle, qu'il est constipé, etc. On met le malade à quatre pattes. Le patron demande au jeune interne de mettre un tube et de regarder dans le rectum du monsieur. Et à la question qui lui est posée, qu'est-ce que tu vois ? L'interne répond, le Mont Saint-Michel sous la neige. Le patron étonné lui dit, mais tu te fous de moi ? Le patron jette un œil un petit peu dubitatif dans le rectoscope et voit effectivement le Mont-Saint-Michel sous la neige. C'était en fait un patient qui s'était mis une boule souvenir, le Mont-Saint-Michel, avec la petite neige que nos grands-mères aimaient beaucoup. Et donc, l'interne n'avait pas vu faux. Le problème, c'est que c'est une histoire qui apparemment a été vécue, mais il faut sortir le Mont-Saint-Michel sans casser. Et ça, c'est du sport.
Vrai, ça ?
Oui, c'est, vrai, c'est un grand classique.
Ouais.
Alors là, le dernier objet, vous voyez là, cette bouteille, là où vous voyez une bouteille de type Bourgogne.
C'est ce qu'on appelle un cul de bouteille.
Chaque histoire, ou du moins chaque corps étranger a son histoire. C'est un patient qui, il y a une quinzaine d'années, s'était, dit-il, était tombé sur une bouteille en rangeant sa cave. Et on l'a récupéré aux urgences avec une hémorragie anale extrêmement importante. En fin de compte, et avec en reprenant l'anecdote, il avait sûrement fait des manœuvres masturbatoires et anales, et il s'était sûrement enfourché et empalé. Il s'était empalé, en fait. Le malade s'était empalé sur cette bouteille, au point de casser et la bouteille et de fêler son rectum, de fendre son rectum. Par contre, ce type d'objet, là, c'est assez facile à sortir. La seule difficulté pour nous, ce sont les objets qui sont ronds, entre guillemets, genre boule de billard. Ça, c'est l'horreur à sortir. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Bon. Alors, on raconte que c'est un monsieur bon chic, bon genre, qui avait des plaisirs anaux assez fréquents et qui, de lassitude, avait fini par trouver une boule de billard pour comme partenaire préféré. Donc, il s'était mis une boule de billard dans un sac à orange, enfermé. La boule était enfermée. Le sac à orange était relié à une commode de Louis XVI par une corde à violon. On peut imaginer la situation, assis sur une chaise, les pattes en l'air. Il prenait, son pied avec un archet d'une main et la corde à violon de l'autre et se faisait donc des gâteries en faisant vibrer la corde de violon jusqu'au jour...
Donc la vibration se transmettait au sac à orange et donc à la boule de billard,
voilà.
À l'intérieur.
Voilà, donc c'était un peu artisanal, bon chic, bon genre, certes, mais artisanal, jusqu'au jour où le sac à orange a craqué et le pauvre monsieur s'est retrouvé avec la boule de billard dans son rectum et le sac à orange sur la commode Louis XVI. Et donc, il n'a pas pu l'exonérer ou l'évacuer, ce qui fait qu'il a dû avoir recours au chirurgien local. Il faut impérativement une anesthésie parfaite et une prise.
Justement, s'il est sous anesthésie, il n'y a pas de vous mettez la main, clac, tac.
Le rectum peut difficilement envisager d'avoir à la fois la boule de billard plus les deux mains du chirurgien. Donc, il y a des choix à faire. La boule de billard reste dans sa solitude pleine et entière au fond du rectum. On passe un forceps autour de la boule de billard comme une tête de nourrisson et on sort la boule de billard comme elle est rentrée. Mais le rectum n'est pas un lieu de promenade. On peut pas mettre la main. Bonjour, c'est moi, je viens vous chercher, etc.
Secrète des êtres humains, le sexe mode d'emploi, même s'il s'agit là de parasodomie, comme dit savamment notre interlocuteur, on en restera sur le registre qui est le sien, vous avez vu, celui d'un médecin, celui d'un proctologue exactement, d'un chirurgien même, et c'est ce regard de un petit constat, enfin c'est à travers son regard que nous allons refermer ce reportage d'Anne Rioux. Il faudrait évidemment enrichir tout ça d'autres considérations, mais c'est tellement riche, ce domaine de l'humain est si riche qu'on y reviendra.
On les range. Alors, on va les ranger. On va ranger nos les vibromasseurs, le godemichet en chaîne. Voilà. Donc la poire, un godemichet en plastique, un concombre, un navet, 4 le navet, 5 la carotte, 6 le verre, 7 l'épingle à cheveux, 8 l'espèce d'écaille de poisson, 9 le lapin, ou la côte de lapin, ce qu'il en reste, 10 le godemichet coloré, 11 le manche de corde à sauter, 12 le vibromasseur avec ses piles, 13 le godemichet en chaîne avec son gland, 14 le bromisateur et 15 la bouteille. Voilà, ça fait une quinzaine en 15 ans à peu près.
Il y a qu'une question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on peut comment on peut faire ce métier en fait. Vous êtes utile, d'accord.
Les corps étrangers, ça fait partie de la proctologie. On n'est pas plus bizarre que les ORL qui enlèvent des pièces de monnaie du larynx des gamins, que les gynécologues qui enlèvent des gadgets à peu près de même nature, sauf que le vagin est un cul-de-sac, alors que le rectum est une voie de passage. Donc les femmes récupèrent plus facilement des objets également dans un but de plaisir sexuel que les hommes, car dans toute ma collection, en dehors de la petite fille, il n'y a que des hommes, jamais de femmes, ce qui est assez étonnant mais classique. Les urologues, eux, par contre, également, mais moins que nous, ont leur corps étranger, souvent un type de stylo ou de porte-plume, de pinceau dans la zézette, de façon à souvent la rigidifier d'une façon un petit peu... Vous ne pensiez pas que c'était pour rigidifier?
Ça me paraît énorme, quoi. Alors, vous dites que ça ne se trouve, vous ne voyez arriver que des hommes. Ça veut dire que les femmes ne le font pas ou elles n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital?
Non, enfin, je ne suis pas, psychologue ni sexologue. Hein, je suis que chirurgien. Je pense que les femmes ont également un plaisir anal, mais les femmes, c'est pas leur plaisir majeur. Chez l'homme, le plaisir anal, je dirais, fait partie, il est une partie intégrante de la sexualité, plus ou moins masquée, larvée. Enfin, et comme les hommes ont pas forcément envie d'avoir à côté d'eux un autre homme, parce que on peut avoir des plaisirs anaux sans forcément être homosexuel, comme on peut avoir des plaisirs vaginaux sans forcément avoir envie d'un contact ou d'un rapport charnel. Eh bien, ce sont effectivement essentiellement des hommes qui ont ce type de dans ce que moi j'étais amené à vivre ici, et c'est pas je suis pas original par rapport à mes collègues. Oui, mais je n'ai pas d'explication. C'est une constatation.
Est-ce que l'usage de choses étrangères, est-ce que ça a toujours existé ou pas? C'est lié à notre civilisation ou pas?
Alors, je ne sais pas. Je pense que le plaisir anal existe depuis que l'homme est homme. Par contre, moi, je n'ai qu'une expérience asiatique de la proctologie, mais à travers des maladies bien traditionnelles, où il est vrai que le tabou judéo-chrétien que nous vivons chaque jour n'existe pas en Asie, dans un certain pays où je suis allé à titre humanitaire, où j'avais une consultation de proctologie et où vraiment les patients venaient pour un examen devant 10 ou 15 autres malades de leurs congénères sans aucune gêne. En France, on ne parle pas de son anus à son conjoint le plus souvent, moins à son concierge, encore moins à son docteur, et c'est un grand regret, ce qui fait que la proctologie est peu ou pas enseignée à la faculté. Donc, en Asie, l'anus n'est pas un tabou. Les gens que j'étais amené à rencontrer à des fins médicales, pour eux, ça aurait été une consultation de pathologie, enfin de maladie des ongles, du cuir chevelu ou de la peau, ça aurait été absolument pareil. Mais sans aucun voyeurisme, c'était d'une grande banalité.
En tout cas, la chose reste tabou dans notre civilisation, aussi bien chez les personnes que chez les médecins eux-mêmes.
Tout ce qui est anal est tabou.
Et vous, en 15 ou 20 ans de pratique médicale, est-ce que vous notez une tendance, une inversion, une modification du comportement des gens?
Sans doute lié au hasard. Il se trouve que les corps étrangers que l'on a comptés à raison de, je dirais, un par an, j'en ai pas vu depuis 2 ou 3 ans. Je m'en suis ouvert, entre guillemets, un de mes collègues récemment qui apparemment trouvait qu'il y avait effectivement une désertification de ce type de patients des salles d'opération ou des salles d'attente. C'est sûrement le hasard. Peut-être que d'ici 3-4 mois, je vais avoir 3-4 d'affilée et je vais retomber dans ma statistique personnelle. Non, il est important pour nous médecins, pour nous chirurgiens, quand on reçoit un malade qui a été l'objet de gags au point de venir nous consulter, on reste avant tout médecin. On banalise au maximum et on dédramatise au maximum et on dit au malade que c'est pas le premier et que ce ne sera pas le dernier. Non, on n'est pas là pour le juger. Le secret de l'alcôve et le secret médical se rencontrent et il faut qu'on reste comme ça. On voit de tout, hein, c'est un microcosme, le rectum.
Dans ce siècle, on sera passé de du sexe réprimé, interdit, au sexe presque obligatoire. Et ce que nous dit le docteur X, c'est que la sexualité est par essence aberrante, qu'elle est une énigme au cœur de la pensée, de toute pensée, et qu'elle reste ce qu'André Breton appelait cet infracassable noyau de nuit.
C'était le docteur X et son armoire infernale, un reportage d'Anne Rioux, merci au docteur X. Un livre sur le sujet, pratique quotidienne en proctologie de Marc Lagrange aux éditions John Libley, Eurotexte, disponible en librairie médicale. Et puis plus générique sur la question liberté, égalité, sexualité de Clarisse Fabre et Eric Fassin dans la collection Faites et Causes. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la base si j'y suis en allant sur franceinter.com. À la technique ce soir, Antoine Viossa et Ludovic Asselot. Réalisation Antoine Ciao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, il y a de quoi. Vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.
Yupanqui.
Chanson d'Atahualpa Yupanqui.
Dedicada, una canción de cuna, dedicada por supuesto a los hijos de los negros.
Une berceuse dédiée aux enfants noirs.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá esté en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, quizás le come la patita. Chacapumba, chacapumba, apumba, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá esté en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, duramente, sí, no le pagan, sí. Esté en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. en el campo, negrito, negrito, negrito.
Du 1er au 15 décembre dernier, Daniel Mermet et Guy Vanctil sont allés voir ceux qui ont élu Chavez, le peuple des Barrios, les paysans sans terre, les Indiens Pimonés d'Amazonie, les chercheurs d'or, les gardiens de la prison d'Eldorado, les créatrices de la première télévision rurale du pays, les Salseros du vieux Caracas. Le Venezuela de Chavez, c'est une série de Là-bas si j'y suis, du 3 au 15 janvier, à suivre sur France Inter.